Bonjour. Inflexible, Manuel Valls le répète aujourd'hui encore, il ira jusqu'au bout avec la loi travail. Le chef du gouvernement recevait il y a quelques instants les acteurs du secteur pétrolier et des transports impactés par la grève anti-loi travail. Nous appellerons Camille Marigaud qui a suivi cette réunion à Matignon. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron fait son petit bonhomme de chemin. Le ministre de l'économie lance aujourd'hui son opération porte-à-porte. Il affirme le faire avec des milliers d'adhérents de son tout nouveau mouvement politique En Marche. À l'autre bout de l'échiquier politique, les rendez-vous de Béziers prétendent réunir tout ce week-end la droite identitaire. Mais visiblement, au Front National, on apprécie assez peu les dernières prises de position de l'organisateur de l'événement, Robert Ménard. Christine Moncla nous appellera de Béziers. Un jugement important en Argentine, mais qui concerne une grande partie de l'Amérique du Sud. 15 anciens militaires argentins ont été condamnés cette nuit à de lourdes peines de prison pour avoir participé à l'opération Condor de sinistre mémoire dans les années 70. On en parle avec notre invité spécialiste de l'Amérique latine, Sébastien Velu, en direct dans quelques minutes. Et puis le Brésil, en tout cas une partie du Brésil, est choquée après la diffusion d'une vidéo de viol collectif. Une jeune de 16 ans violée par 33 hommes armés. Anne Vigna nous appelle de Rio de Janeiro. J'irai jusqu'au bout. La phrase signée Manuel Valls barre la une du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Aujourd'hui, à propos de la loi travail, le Premier ministre assure qu'il n'y aura pas de retrait du texte. Pas de retrait non plus de l'article 2 sur l'inversion de la hiérarchie des normes. Un article qui cristallise beaucoup la contestation. Mais en attendant, bien que Manuel Valls affirme dans cette interview qu'il ne pense pas que le mouvement va s'amplifier, eh bien les grèves se poursuivent dans plusieurs secteurs économiques stratégiques. Les raffineries et les notamment. Bonjour Camille Marigaud.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Matignon où Manuel Valls vient tout juste de recevoir justement les acteurs du secteur pétrolier et des transports. Une réunion pour quoi faire, Camille ?
Une réunion pour faire le point sur la situation avec les représentants des raffineurs, des distributeurs pétroliers, de la grande distribution mais aussi des transports. Aucune mesure concrète n'a été prise ce matin. Le secteur, toujours confronté à la mobilisation de la CGT contre la loi travail, reste en difficulté d'approvisionnement et de distribution. Mais ça ira mieux lundi, a promis Francis Dussault, président de l'Union française des industries pétrolières, pour garantir l'accès aux stocks et la liberté de circulation. À l'heure actuelle, tous les dépôts bloqués sont libérés, à l'exception de celui de Garganville dans les Yvelines. En revanche, 4 raffineries sur 8 sont toujours à l'arrêt, 2 sont au ralenti et 2 fonctionnent normalement. Et du côté des stations-service, 1 sur 5 reste en difficulté. Il est d'ailleurs demandé aux distributeurs de ne pas profiter de la situation en augmentant les prix. Le gouvernement, qui a déjà commencé à puiser dans les réserves stratégiques de carburant, va-t-il devoir continuer ? Tout dépendra des actions à venir des syndicats CGT et Force ouvrière. La grève est en tout cas reconduite dans certains terminaux du Havre jusqu'à mardi. Pourtant, Manuel Valls ira jusqu'au bout pour faire adopter la loi travail, il le répète, alors que les grévistes réclament de la reprendre à zéro. Mais hier encore, il n'excluait pas de réquisitionner les employés de certaines raffineries, tout en affirmant vouloir garantir le droit de grève et de manifester.
Merci Camille Marigaud en direct de Matignon et merci à Laurent Groux à vos côtés pour les moyens techniques. Sachez que Force Ouvrière Transport a appelé également hier soir à une grève dans les villes qui accueilleront l'Euro de football en juin chaque jour de match. Et puis du côté des violences, un jeune homme de 28 ans a été sérieusement blessé jeudi dernier à la suite de heurts dans la manifestation à Paris. Touché à la tête, il est toujours hospitalisé ce midi en soins intensifs. Son état n'est pas stabilisé, indique le parquet de Paris qui ouvre une enquête préliminaire pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique, car le jeune homme en fait s'est effondré juste après qu'un policier ait lancé une grenade de désencerclement dans le Parisien. D'ailleurs, ce matin, Manuel Valls dit avoir confiance en la justice et en Bernard Cazeneuve pour faire toute la lumière sur l'enchaînement précis des faits. Nous parlions justement il y a quelques instants de cette réunion à Matignon autour de Manuel Valls. Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, était présent. Emmanuel Macron qui pourtant n'est pas occupé uniquement sur le dossier de la loi travail en ce moment, puisque c'est aujourd'hui qu'il lance son opération de porte-à-porte après avoir lancé début avril son mouvement politique En Marche. Bonjour Claire Lenestour.
Bonjour.
Alors à quoi joue Emmanuel Macron ? Il joue collectif ou il joue personnel ?
Eh bien la stratégie Emmanuel Macron, c'est l'art de jouer deux partitions en même temps. La sienne et celle du gouvernement comme un premier violon qui se détache de l'orchestre sans pour autant devenir soliste. Alors c'est difficile mais ce n'est pas impossible à condition bien sûr de rester sous l'autorité du chef d'orchestre, en l'occurrence Manuel Valls. Alors une stratégie périlleuse certes, mais pour Jean Petaut, politologue à Sciences Po Bordeaux, le ministre de l'économie n'a pas grand-chose à perdre.
Soit François Hollande se présente et est élu à ce moment-là Emmanuel Macron a toutes les probabilités pour, ayant acquis une surface politique, se retrouver à Matignon. Soit François Hollande se présente ébattu. Bon, ben là, les compteurs sont remis à zéro pour la gauche, et c'est probablement une explosion de la gauche telle qu'on la connaît aujourd'hui. Puis la troisième hypothèse, c'est François Hollande ne se présente pas, et à ce moment-là, Emmanuel Macron est en concurrence peut-être directe avec Manuel Valls. Donc là, les cartes sont un peu redistribuées aussi, quoi.
Tout l'enjeu en attendant l'élection présidentielle sera donc de ménager les sensibilités. Le risque de divorce est de toute façon minime, puisque Manuel Valls aurait bien du mal à justifier l'éviction d'un ministre si populaire.
Le Premier ministre peut exiger la tête de tel ou tel, mais ça se fait plutôt souvent au début d'une mandature de Premier ministre. Là, maintenant, c'est pas du tout la même situation. Vous connaissez l'expression en anglais à propos des grandes entreprises, « too big to fail ». Alors, je veux pas dire que Emmanuel Macron est devenu un poids lourd politique. Peut-être que les mois à venir vont montrer que c'est plutôt une grenouille qui aurait peut-être gonflé trop vite, pour faire référence à la fable de La Fontaine. D'une certaine façon, il a quand même acquis une capacité d'existence qui est forte pour quelqu'un qui est, encore une fois, novice en politique.
Reste donc une personne qui pourrait mettre fin à cette double partition, et c'est François Hollande. Et là aussi, Emmanuel Macron semble à l'abri, à condition bien sûr de ne pas faire de couacs gigantesques, car pour le président, avoir Emmanuel Macron au sein du gouvernement, c'est une façon de ne se fermer aucune porte avant 2017.
Merci beaucoup Claire Lenestour pour ces explications sur France Culture. Les rendez-vous de Béziers ont débuté hier autour du maire de la ville, le médiatique Robert Ménard, élu il y a 2 ans avec le soutien du Front National. Robert Ménard qui entend réunir cette droite dite hors les murs, à mi-chemin entre l'extrême droite et la droite identitaire, autour par exemple du magazine Valeurs Actuelles. L'une des principales invitées du week-end était la députée frontiste Marion Maréchal-Le Pen. Bonjour Christine Monclar.
Bonjour Antoine.
Vous êtes en direct de Béziers, sauf que la nièce de Marine Le Pen vient de quitter les rendez-vous de Béziers, visiblement fâchée. C'est une sorte de mini coup de théâtre.
Exactement, la jeune députée qui représentait ici officiellement Marion Maréchal-Le Pen a claqué la porte il y a environ une demi-heure après une matinée de cache-cache et d'ostensible boycott des conférences. Marion Maréchal-Le Pen dit qu'elle est agacée par les déclarations plus que maladroites de Robert Ménard, en l'occurrence quand il déclare que son nouveau mouvement lancé ici à Béziers, Ose ta droite, ne sera pas un marchepied pour le Front National et qu'il soutiendra en 2017 le ou la candidate qui reprendra les 50 propositions qui seront faites demain. On ne peut pas accepter le « à prendre ou à laisser », commente un conseiller de Marion Maréchal-Le Pen. Son rôle ici devait être d'être en observatrice pour en rendre compte ensuite à sa tante. Dès hier soir, elle avait prévenu dans les couloirs du Palais des Congrès « si je sens une entourloupe, je me tire », c'est donc ce qu'elle a fait devant les micros et caméras. Elle a aussi annulé un 13h qui était prévu sur TF1. Robert Ménard, lui, effectivement, a été élu maire de Béziers avec le soutien du Front National il y a 2 ans. C'est ce que rappelle aussi un cadre du FN. Et il pose donc aujourd'hui un vrai problème de loyauté. Plusieurs membres du FN, d'ailleurs, à l'instar de Marion Maréchal-Le Pen, ont décidé eux aussi de quitter les rencontres de Béziers. La recomposition des droites voulue par Robert Ménard se poursuivra donc ce week-end sans le Front National officiel, mais pas sans ses militants, puisqu'ils forment le gros des troupes des participants ici. Marion Maréchal-Le Pen, en réalité d'ailleurs, n'avait pas tellement d'autre choix que de partir ce matin pour ne pas apparaître trop déloyale justement envers sa tante Marine Le Pen, même si sa brève présence ici à Béziers aura accrédité la proximité de l'essentiel des idées partagées par toutes ces droites.
Merci beaucoup Christine Monclar, vous étiez en direct des rendez-vous de Béziers. C'est un jugement important que vient de rendre la justice en Argentine. 15 anciens militaires sont condamnés pour leur participation au plan Condor, notamment le dernier dictateur du pays, Reynaldo Bignone, âgé de 88 ans, qui écope de 20 ans de prison. Le plan Condor, c'est une opération criminelle menée par l'Argentine, mais aussi 5 autres dictatures sud-américaines dans les années 1970 qui visaient à éliminer physiquement les opposants politiques de gauche à ces régimes. Bonjour Sébastien Velu. Vous êtes professeur à l'Institut des hautes études sur l'Amérique latine. Ce n'est pas la première fois que l'Argentine juge des participants ou des complices de ce plan Condor. Qu'est-ce que ce jugement-là a de particulier selon vous ?
D'abord, il faut souligner que l'Argentine a fait depuis une dizaine d'années un travail assez remarquable justement de judiciaire concernant les dictatures et les crimes qui ont été commis pendant ces années. travail qui est plus avancé que dans les autres pays de la région, qui a notamment été beaucoup poussé par les deux présidents Kirchner, dont Nestor puis Kristina. Alors la particularité du jugement qui vient d'être tenu, c'est qu'il porte sur cette opération, dite opération Condor, qui montre non seulement qu'il y a eu des violations des droits de l'homme et des crimes épouvantables commis pendant toutes ces années, mais qui montre aussi les réseaux de coopération, si on peut dire, de complicité avec les autres dictatures du cône sud, comme vous venez de le mentionner.
On parle de l'Argentine qui, quelque part, est exemplaire, en tout cas au niveau de sa justice. Qu'en est-il dans les autres pays? Est-ce qu'ils sont allés aussi loin pour chasser et condamner les responsables du plan Condor?
Non. L'Argentine, à ce jour, est le seul pays où ce procès s'est tenu. Mais c'est évident qu'il établit un certain nombre de faits qui vont aussi obliger ou faciliter le fait que ça bouge dans les autres pays. Je pense que l'un des pays où ça pourrait bouger le plus rapidement possible, c'est l'Uruguay, qui est un pays relativement plus avancé, je pense, au niveau de la discussion sur ces années-là. Pour le Chili et le Brésil, le Paraguay, c'est beaucoup plus compliqué.
Sébastien Velu, je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut des hautes études sur l'Amérique latine. Quel a été le rôle des États-Unis à l'époque? Est-ce qu'on peut parler d'une complicité américaine pour ce plan Condor ou le mot est trop fort?
Écoutez, on sait que les États-Unis étaient derrière le coup d'État de Pinochet de 1973. Dans ces périodes du début, du milieu des années 70, on est encore en pleine guerre froide et finalement les États-Unis ont appuyé les dictatures du cône sud comme un moyen de résister à ce qu'ils considéraient comme la menace communiste. Donc ils sont très directement liés, ils ont connaissance de tout ce qui s'est passé en Argentine, dans les pays voisins.
Et au niveau des opinions publiques, notamment en Argentine, hein, où ont eu lieu hier soir ces condamnations, hein, je rappelle 15 condamnations d'anciens militaires à de lourdes peines, quel est l'état de l'opinion publique 40 ans après les faits?
Bien justement, le temps a passé. Et ça, c'est un point important et c'est pour ça qu'il est urgent d'avancer. Et puisque les responsables déjà des crimes qui ont été commis sont très âgés, hein, et c'est la plus grande partie, ils sont déjà décédés. Du coup, il sera bientôt plus possible d'ouvrir des jugements contre des personnes décédées. On sent dans l'opinion argentine deux choses un peu contradictoires. Tout d'abord, la discussion sur les crimes de la dictature reste un sujet qui divise en Argentine. Et on l'a vu encore au début du mandat de M. Macri, hein, comment à la fois les victimes de la dictature sont toujours très attentives, les victimes et les enfants des victimes, les familles. Et puis en même temps, il y a encore des groupes qui continuent à dire que c'était un mal nécessaire, hein, pour éviter de basculer sur le communisme. Du coup, l'opinion, elle reste divisée. Et en même temps, ce sont des faits qui s'éloignent. Donc peut-être qu'ils sont moins présents, hein, dans les jeunes générations.
Merci beaucoup Sébastien Velu, professeur à l'Institut des hautes études sur l'Amérique latine, d'avoir été en direct dans ce journal de France Culture. On reste d'ailleurs en Amérique du Sud avec le Brésil qui se réveille après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo choquante. On y voit une adolescente de 16 ans allongée sur un lit, visiblement inconsciente, les parties intimes exposées et en sang. Un homme explique dans cette vidéo affirmant que cette jeune adolescente a été violée par 30 personnes, ce que la jeune femme d'ailleurs a confirmé ensuite aux policiers. Précisément, ce sont 33 hommes armés qui l'auraient violé dans une favela de Rio de Janeiro. Un viol collectif qui n'a rien de banal au Brésil, mais cette fois, évidemment, il provoque une onde de choc. La présidence brésilienne dénonce un crime barbare et des manifestations s'organisent à Nvinia.
"33 chiffres criés par des femmes en colère, des brésiliennes en majorité, mais beaucoup d'hommes aussi, qui se sont rassemblés au lendemain de la découverte de ce viol à Rio de Janeiro. Ici, comme sur les réseaux sociaux, on dénonce une culture du viol dans la société brésilienne. Une culture qui se voit dans les comportements et les médias, comme l'explique Oroa, une psychologue venue manifester avec son compagnon.
La culture de l'estupro est culpa da vítima.
Le problème, c'est que les victimes de viol sont souvent amenées à culpabiliser. Le problème, c'est de penser qu'une femme, parce qu'elle porte des habits courts, demande à être violée. C'est de penser qu'un cas comme celui-là peut être posté sur les réseaux sociaux, qu'on peut faire des blagues dessus. Je crois que les gens se sentent protégés, qu'ils se sentent le droit de partager sur Internet et qu'ils ne vont pas être punis.
La culture du viol se voit aussi dans les chiffres. Une femme violée toutes les 11 minutes au Brésil, 48 000 plaintes pour viol l'an dernier. On estime que beaucoup ne sont pas dénoncés à la police, comme le cas de cette adolescente qui était violentée par des hommes armés.
Un reportage d'Anne Vigna depuis Rio de Janeiro. La météo très instable cet après-midi sur quasiment tout l'Hexagone, sauf le quart sud-est, avec des risques d'orages isolés jusqu'à ce soir. Et Météo France qui place même 19 départements du sud-ouest jusqu'au Lyonnais en vigilance orange à partir de 16h, puisque des orages violents pourraient être accompagnés de chutes de grêle, température élevée, 15 jusqu'à même 29 degrés en Provence, selon Météo France. Merci François-Charles Domergue pour son aide dans la préparation de ce journal. Anthony Thomasson et Dophar Guéride à la prise de son.